Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la tragédie de la Terre de Sophocle à Sri Aurobindo, écrit par Satprem. Alors je vais vous lire le chapitre « Le paradoxe des enfers » avec un sous-titre « Un aveugle en marche ». Si le jeune fils d'Ajax ne sentait pas encore Sophocle, lui sentait immensément, mais pas à la façon de vaine pitié ni de larmes vaines sur la misère des hommes et tous ces sacrifices inutiles. Inutiles, Sophocle, lui, poursuit impitoyablement comme s'il était à la chasse du secret. Ce moment du destin où le but de tous ces meurtres, ces déchirements, cette misère partout, comme un perpétuel viol de notre humanité, révèle sa face qui est la nôtre, vraie, enfin. Il aiguise les contradictions comme pour mieux faire éclater que dans Oedipe roi, ou surtout son deuxième Oedipe, Oedipe à colonne, sa dernière tragédie connue, il dit si simplement ce qui est simple. Voilà donc Oedipe arrogant et fier, dont Sophocle fait celui qui sait, Wada, pauvre savoir, et qui est d'avance condamné par l'oracle de Delphes. Il tuera son père, il épousera sa mère, il sera la souillure. Pour fuir le destin, il quitte Corinthe, il quitte ceux qu'il croyait être son père et sa mère, et il se met en route pour Thèbes. Sur le chemin, il tue un étranger malencontreux qu'il croyait être un brigand, mais l'oracle ne lui a pas dit que le roi et la reine de Corinthe n'étaient pas ses parents. Arrivé à Thèbes, il est le héros victorieux qui délivre la cité de l'abominable sphinge. Il est presque un dieu pour tous et il épouse la reine de Thèbes, Jocaste, qui était sa mère. L'oracle le précipite dans le destin même qu'il voulait fuir. Mais ce n'est pas tout. Avant même la naissance d'Oedipe, le malheur est en marche, car l'oracle avait prédit un roi à Thèbes, Laïos. Son premier fils le tuerait, lui aussi veut fuir le destin. Pour mieux se précipiter dedans, et il abandonne ce premier fils à peine né, notre Oedipe, dans le désert. Recueilli par des bergers, Oedipe nouveau-né par le roi et la reine de Corinthe. Des années plus tard, dans sa fuite de Corinthe, Oedipe tue un étranger malencontreux qui n'était autre que son père, Laïos. Tout est terriblement fait d'avance que l'on pourrait trouver quelque raison à la machine infernale de Cocteau. Mais Sophocle n'est pas moderne et l'Olympe siège au-dessus de lui, alors même qu'il adore la grande déesse Thère et les diens et les danses de Dionysos. Donc Oedipe est déterminé à démasquer tous ses oracles et ses devins qu'il maîtrise. Il veut prouver que sa vraie mère est bien celle qui la fuit, tandis que Jocaste, sa chère femme, le conjure de ne rien chercher. Elle craint obscurément cette recherche. Et qu'aurait donc à craindre un mortel joué du destin qui ne peut rien prévoir de sûr? Vivre au hasard comme on le peut, c'est de beaucoup le mieux encore. À quoi Oedipe répond : je veux savoir le vrai. Comme Ajax, gisant sur le sable en proie à son délire, il veut savoir où il en est comme Sophocle. et au divin Thérésias qui lui déclare « C'est toi le criminel qui souille ce pays. » Œdipe répond encore « Je demeure hors de tes atteintes. En moi vit la force du vrai. » Mais ce vrai n'était pas celui qu'Œdipe croyait, ni les devins, ni même Sophocle, car Sophocle sentait bien qu'il n'avait pas trouvé le vrai dans sa première tragédie, simplement montrant Œdipe déshonoré et détrôné. Et il poursuit son but avec une obstination égale à celle d'Œdipe. Il n'y a rien de plus obstiné que le vrai. Car c'est le but même de tous ces désastres et ces ténèbres et ces enfers. Ainsi donc, dans la première tragédie de Sophocle, Oracle s'aperçoit que les oracles l'avaient dit vrai. Hélas, hélas, ainsi tout à la fin serait vrai. À la lumière du jour que je te vois ici pour la dernière fois, puisqu'aujourd'hui je me révèle le Fils, de qui je ne devais pas naître, l'époux de qui je ne devais pas l'être, le meurtrier de qui je ne devais pas tuer. Et il se précipite dans les appartements de sa femme, la trouve pendue, arrache les agrafes d'or qui grappaient ses vêtements et se crève les yeux. Celui qui sait est plongé dans les ténèbres. Ah, nuage de ténèbres, nuage abominable qui t'étend sur moi, immense, irrésistible, écrasant. Devenue la souillure de la cité, Œdipe s'exile de son propre pays, même le tyran Créon lui arrache ses deux filles Antigone et Ismène. Et cet aveugle se met en marche tout seul. Aucun des siens ne lui servait de guide. Il va mendier sur les routes. Non, ce n'est pas encore cela le vrai poursuivi par Sophocle. Bien qu'au bout de tout, qu'il y ait une détermination farouche d'un homme qui se met en marche tout seul, même ses ténèbres sont déjà quelque chose qui brûle. Sans savoir pourquoi, nous pensons à Mère, à la grande actrice de Savitri. Mais physiquement, cette fois en 1973, à l'âge de 95 ans, seule et enfermée dans sa chambre, entourée de ses vautours, à demi aveugle, et qui dit par deux fois à la brute qui la garde « Je veux marcher, je veux marcher, je veux marcher. » Il y a ce feu indomptable devant la mort, et c'est peut-être le secret de l'homme, c'est peut-être le « ce » qui peut sur la mort. La réponse du destin, non. Sophocle n'a pas trouvé encore, et ce mendiant aveugle qui va seul sur la route ne pouvait être qu'un commencement, non une fin. 20 ans plus tard, dans sa dernière tragédie, Œdipe à Colone, écrite à l'âge de 85 ans, Sophocle poursuit la même contradiction. Il lui prête même toutes les voies du diable ou de la sagesse, comme le chante le cœur. Celui que ne satisfait pas une part normale de vie et qui en souhaite une plus grande, obéit à la pure sottise. Pour moi, ce sera là une éclatante vérité. Les longs jours n'ont jamais réservé à personne que des épreuves plus voisine de la douleur que de la joie. Les joies, où sont-elles? Ton œil les cherchera en vain, sitôt que tu auras franchi Pour ton malheur, la limite marque en ton lot. Ton seul recours alors sera celle qui donne la fin à tous. Alors où se révèle la crise meurtrière qui fait taire les chants, les lyres et les danses, ce sera la mort qui termine tout. Le cœur ajoute même ce dernier petit accent noir. Ne pas naître, voilà ce qui vaut mieux que tout. Comme coup de massue, colonne, la blanche colonne est le lieu où naquit Sophocle. C'était en l'an 496 d'avant notre ère, le 5e siècle d'avant. Nous ne savons trop quoi ni qui nous faut d'abord marquer le commencement des temps. C'était encore l'âge de Bouddha, là-bas, sur les rivages d'Asie, de Socrate dans les rues d'Athènes et de ces païens si émouvants. Colonne est le lieu du dernier Oedipe qui sera joué 5 ans après la mort de Sophocle en l'an 401. C'est là qu'arrive le vieil aveugle sous des hardes dont la vieille et horrible crasse ronge les vieux flancs. Il s'enquiert où sommes-nous ici. De quel peuple est-ce le pays qui accordera aujourd'hui à Sophocle, le vagabond, quelques miracles, misérable aumône? Il s'assoit sur une pierre au bord d'un petit bois. C'est une pierre sacrée. Un étranger le prie de quitter promptement ce siège. Ne sais-tu pas que ce lieu tout entier est sacré? Le maître en est l'auguste Poséidon, dieu des mers. Colonne est dans la banlieue d'Athènes, à l'orée d'un petit bois. C'est ici que fréquente Dionysos le Bacchan. C'est là que l'oracle avait conduit Oedipe, lui annonçant sa mort prochaine et un séjour hospitalier chez les déesses redoutables. Allons, doux enfants de l'ombre primitive, allons. Prenez en pitié le malheureux fantôme de celui qu'on nommait Oedipe, car ce n'est plus là sûrement l'homme qu'il a jadis été. Ainsi parle Oedipe lui-même et la nouvelle court jusqu'à Thésée, le roi d'Athènes, fils d'Égée. Sera-t-il chassé d'ici aussi? Il plaide que sa tombe reste ici à Colonne prédestinée. Ô très cher fils d'Égée, les dieux sont seuls à ne connaître ni la vieillesse ni la mort. Tout le reste subit les bouleversements qu'inflige le temps souverain. Voit-on pas dépérir la force de la terre comme dépérit la force d'un corps? La loyauté se meurt, la félonie grandit. Et ce n'est pas le même esprit qui toujours règne entre amis. Pas plus que de ville en ville, le temps infini enfante à l'infini et des nuits et des jours, au cours desquels sont un léger prétexte. On verra soudain la guerre disperser à tous les vents les assurances qui vous unissent aujourd'hui. Mais Thésée l'accueille comme un héros. Même les dieux avaient prédit qu'on le chercherait partout et que sa tombe serait le salut d'Athènes. Oedipe reste interdit. Moi, une loque, et c'est là où il a ce cri, cet autre cri qui est la réponse du destin. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. Jamais cri plus puissant n'a traversé les tragédies de la terre. Alors je répète parce que c'est fantastique. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens un homme. Nous allons comme des aveugles. Nous tâtonnons dans nos misères et nous nous lamentons de notre sort. Et nous sommes n'importe quoi, Pierre ou Paul, qui va n'importe où au milieu d'un million de petites choses si semblables à celles des autres qui passent et des petits buts qui ne sont de nulle part. N'étions-nous pas des millions de fois pour rien et des millions de pas qui foulent d'innombrables nuits d'avant sous ce vêtement ou un autre avec des petits désirs si pareils à ceux d'hier et des morts insensées et des douleurs si vieilles qu'elles semblent la boue même de la terre. Et qu'est-ce qui est là-dedans? Quel homme, enfin, quelle minute qui compte? Et c'est l'heure du destin. Ce silence devant quelque chose qui bait, ce moment qui brûle, comme si l'on avait brûlé que ça pour ça, des millions de secondes pour cet homme-là, tout d'un coup, qui se regarde comme s'il n'avait jamais été. Une première seconde qui bat, comme si l'on n'avait jamais vécu, que pour ce battement-là, et ça brûle, et c'est pour toujours. Et ça aime. On ne sait pas quoi, mais c'est comme un amour de toujours, pour cette nuit et pour ce jour, pour personne et pour tout, comme s'il n'y avait jamais eu que cet amour au fond de tout. C'est fini et ça commence. On va mourir et la mort n'est plus. On n'en sait rien et on sait quoi. Le silence, ce silence-là, qui carillonne à travers les univers et pour toujours. Œdipe va son destin. Il marche au-delà du petit bois sacré vers le cratère indiqué par l'oracle, le seuil d'Airain. Seul Thésée le suit de loin. Œdipe ne veut pas que ses filles l'accompagnent. Il dépouille là ses hardes sordides. Et il aura un autre cri encore, si bouleversant, comme seul Sophocle ou Shri Aurobindo peuvent le sentir. Oui, c'est bien par ici que m'emmènent ensemble et Hermès, le guide des morts et la déesse des enfers. Lumière, invisible à mes yeux depuis longtemps, pourtant, tu étais mienne. De loin, le messager décrit aux filles d'Œdipe la scène que personne ne devait voir. Voici Zeus infernal qui se met à gronder. Et au bout d'un instant, nous nous retournons et nous voyons que les deux hommes, Œdipe et Thésée, l'un n'était plus là et l'autre, notre roi, avait la main au front. S'en ombrageant les yeux, comme en présence d'un spectacle effroyable qui se fut révélé et dont il ne pouvait supporter la vue. Peu après, cependant, et presque sans délai, nous l'apercevons qui adore à la fois, dans la même prière, la terre et l'Olympe divin. Alors voilà, aujourd'hui, je termine la tragédie de la terre, le chapitre « Le paradoxe des enfers » et le sous-titre « La réponse du destin ». De Sophocle à Sri Aurobindo, cette tragédie de la terre a été écrite par Satprem. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, merci Satprem, merci Priya, Ganga Lakshmi, Savitri Bhavan, House of Mother Agenda. Thank you.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.